There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Bonjour à tous, bonjour à toutes. Vous êtes bien sur Culture Numérique, le podcast de Siècle Digital. On commence une nouvelle semaine. On va la commencer peut-être pas avec une actualité chaude, c'est plutôt des statistiques, mais on pense que c'est un sujet qui est plus qu'intéressant et qui peut se traiter en ces 5 minutes dont vous avez l'habitude, si vous êtes fidèle à ce format, avec notre ami Valentin.
Salut Ambroise.
Valentin, rédacteur en chef de Siècle Digital. On va parler d'Instagram et les influenceurs qui gravitent autour. Très important pour les marques. Maintenant, c'est bon, hein, c'est plus un phénomène nouveau, c'est bien connu. Mais justement, vu qu'on a un peu de recul, il est intéressant de comprendre les chiffres et ce qui se passe, ce qui se trame vraiment directement avec ces influenceurs. Est-ce que tu peux nous faire un petit panorama, Valentin, déjà de qu'est-ce qu'on appelle influenceur ? Est-ce qu'il y a plusieurs types d'influenceurs ? Et puis peut-être présenter aussi l'organisme qui a fait cette étude ?
Ouais, alors l'organisme, c'est plutôt une start-up, je pense si on peut la qualifier de start-up, qui s'appelle HypeAuditor, qui était déjà connu pour différentes études et son outil qui permet d'analyser des comptes sur Instagram et YouTube maintenant, mm-hmm. et pouvoir identifier si effectivement, c'est des comptes avec des activités étrange ou non, et surtout de savoir le taux d'engagement. Donc c'est aussi utile pour les marques, pas forcément pour analyser et étudier la fraude, mais pour choisir les bons influenceurs avec lesquels travailler.
Parce que ça, il y a eu quand même pas mal d'erreurs au tout départ des influenceurs, où on se retrouvait à travailler avec des personnes en fait qui faisaient du fake derrière, et vu qu'il n'y avait pas de recul, pas de manière de vérifier, on est juste aveuglé par le compteur de likes ou d'abonnés, et puis on se fait avoir en fait.
C'est ça, donc les marques commencent à apprendre un petit peu de leurs erreurs et des budgets qui fait gâcher, et le fait d'être interpellé par d'autres influenceurs qui leur disent mais lui il fait n'importe quoi, travaillez pas avec lui, ou allez plutôt vers des vrais influenceurs. Mais aussi un besoin d'accompagnement, d'avoir des vraies personnes qui connaissent ce métier là de l'influence dans le marketing. Et donc HypeAuditor identifie 80 000 influenceurs plutôt francophones, donc on peut les avoir aussi, je pense, éventuellement à Montréal ou en Belgique ou dans d'autres pays. Sur ces 80 000 là, il y en a 0,37% qui sont des méga influenceurs qui ont plus d'un million d'abonnés sur Instagram.
Ça, c'est très très costaud.
C'est costaud, donc il y en a forcément très peu. 2,5% sont entre 100 000 et 1 million d'abonnés, donc ça reste aussi une très faible part. Après, 12,5% sont entre 20 000 et 100 000. Et la part la plus importante, c'est 44,6% qui sont des influenceurs entre 5 et 100 000 abonnés. Et forcément, entre 5 et 20 000, pardon.
D'accord.
Donc la marge est plus large.
Bon, ça nous donne un peu l'idée du type d'influenceurs en majorité qu'il y a sur Instagram. Si on regarde un peu plus les catégories, qu'est-ce qui est le plus représenté sur Instagram parmi ces influenceurs ? C'est réparti équitablement entre, je sais pas, beauté, sport, etc.
Alors non, pas vraiment. Enfin, il y a quand même trois catégories principales, dont une qui est la plus représentée, mais qui est peut-être qui est peut-être pas forcément assez éclaté, parce que HypeAuditor la considère comme les how-to and style, donc c'est plutôt là où il y a des tutos ou peut-être des unboxings, et plutôt style dans le sens lifestyle, où je suis pas forcément spécialisé sur le voyage, mais je vais mettre un petit peu beaucoup de photos, beaucoup je raconte ma vie, donc c'est propre à Instagram, mais c'est ce qui fait
que c'est la
part
large comme catégorie.
La plus représentée, c'est presque 40% des influenceurs. Donc c'est une grosse partie. Vient ensuite la beauté et la mode, qui est finalement la deuxième partie, mais qui représente seulement 8,91% des comptes d'influence identifiés par HypeAuditor. Et ensuite vient le sport, avec 5,40%.
On en arrive au sujet qui fâche, c'est que pour l'instant, on parle comme si tout allait bien et que tout était bien cadré, mais il y a des dérives, il y a des usages de techniques qui permettent en fait de contourner les règles d'Instagram et peut-être de se croire plus influenceur qu'on ne l'est. Alors ça, c'est intéressant parce que justement, la start-up dont on parle a repéré et a catégorisé les types de fraudes. Alors il y en a cinq, c'est ça ?
Il y a cinq types de fraudes recensées par Hype Auditor qu'on connaît plus ou moins. Alors, il y a tout simplement le fait d'acheter des abonnés.
Ce qu'on imagine le plus logiquement, le plus simplement, en effet, quand on parle de fraude.
C'est ça. Ensuite, il y a la bonne vieille technique du follow and follow, qui fait partie de la fraude, qui peut être faite avec ton propre compte, mais aussi tu peux utiliser des logiciels pour le faire. Où là, c'est une technique qui date de plusieurs années déjà, de Twitter à la base, où on allait suivre, voilà, on suivait beaucoup de comptes d'un coup, et Twitter mettait pas de limitation. Maintenant, il y en a, et dès qu'il identifie ce genre de pratique, Twitter verrouille un compte. Sur Instagram, c'est pas encore trop le cas.
Et c'est marrant, parce que moi, je voyais pas ça comme de la fraude.
Ben, ça en fait partie, puisque il y a une mécanique et c'est pas organique.
Donc c'est on pas peut organique, considérer comme de la fraude, mais après il y a aussi que le... celui qui reçoit la notification a le choix de suivre ou non en retour. Donc s'il suit, c'est bien qu'il y a un intérêt. Ah bah, donc c'est un sens.
Il a le choix, mais si tu utilises un outil qui va te dire ok, bah moi tu vois, tu veux dire ok, bah tu vas aller me suivre, je sais pas, 500 comptes par jour sur tel hashtag et qui sont francophones. Voilà, on utilise quand même un espèce d'outil. Alors on n'achète pas des faux gens parce que c'est des vrais gens qui vont nous suivre derrière. Donc, mais ça reste quand même un certain type de fraude si on doit pointer ça du doigt.
En tout cas, c'est mal reconnu. En tout cas, c'est pas accepté par la plupart des réseaux sociaux. Donc rien que cela nous fait dire que c'est pas la bonne solution, la bonne voie pour se développer.
Ça n'est jamais. Ensuite, il y a le fait d'acheter des likes et des commentaires. Le classique. Donc il y a acheter des abonnés, faire du follow and follow, acheter des likes et des commentaires, acheter des vues pour ses stories. Voilà, sur certains outils, on peut obtenir 100 000 vues pour 500€ sur sa story. La question que je me suis posée quand j'ai lu l'article, c'est pour 500€, est-ce qu'il ne vaudrait pas mieux les donner à Facebook et qu'ils me fassent des vraies vues sur mes stories ?
Faut voir si 500€ permet d'atteindre ce chiffre. Et surtout, là, il n'y a pas besoin de s'embêter, au moins, elles arrivent en 24 heures. Et puis, si derrière, je suis sponsorisé par Club Med qui m'offre un voyage pendant 2 semaines qui a une valeur de 2 500€, 2 500,
bon, ça fait un voyage pas cher. Ouais, c'est ça. Et ensuite, il y a les Common Pods, enfin, ce qui est appelé en anglais Common Pods, qui en fait consiste à créer un petit groupe de plusieurs influenceurs. Donc, ça peut être 10 à 20 utilisateurs. Donc, qui vont échanger sur Messenger, sur WhatsApp ou directement sur Instagram. Et en fait, ils vont s'encourager à aller commenter mutuellement leur publication, dès qu'il y en a une qui a commenté, histoire de faire remonter un petit peu la publication dans l'algorithme. Parce que Instagram va se dire, ok, oh là là, ce post-là, il a l'air visiblement très viral, où il y a beaucoup de gens et de gros comptes qui le commentent ou qui interagissent avec, ok, bah paf, je vais le faire remonter, je vais le monter à plus de personnes qu'une publication un peu plus basique.
D'accord, mais alors là, on a parlé, on va dire, des types de fraudes qu'il y a. Ce qui est plus intéressant, c'est de regarder qui pratique ce genre de mauvaises choses, hein, de faire ce qu'il ne faut pas, tricher. Et là, c'est 40% des influenceurs de la communauté francophone qui sont concernés. C'est énorme. Alors, on arrête de rentrer dans les chiffres maintenant, mais peut-être juste toi, ta réaction. Tu pensais que c'était à cette hauteur ? Qu'est-ce que tu penses que, du coup, l'influence en prend un coup au passage ? Qu'en fait, c'est un peu du vent, tout ça ?
Bah, ça dépend. Tout dépend de la pratique. Ce qui est dommage, c'est que c'est pas la part de... En fait, il y a 40% des influenceurs qui font de la fraude en France. Mais il faut arriver aussi à savoir quel est le pourcentage de ceux qui achètent des faux abonnés, quel pourcentage de ceux qui travaillent en comment, qui font des comment pods, quels sont ceux qui font du follow and follow. Donc il y a toutes ces petites choses qui seraient bien de mettre en exergue, parce que là du coup on peut incriminer des gens pour des choses qui sont plutôt acceptées dans le domaine. Mais ce qui est le plus important par contre, c'est que les méga influenceurs sont ceux qui ont le plus recours à la fraude. Donc comme quoi, c'est peut-être que ça marche. Et même s'ils sont seulement 0,37% de ces 80 000 influenceurs, c'est ceux qui ont la part la plus importante, puisque 52,68% d'entre eux ont déjà eu recours à la fraude. Et ceux qui le font le moins sont les plus petits influenceurs, ceux qui ont entre 1 000 et 5 000 abonnés.
Trop honnête, beaucoup trop. Ok, bon, bah, ça vous donne une petite vision globale. Hein. Si vous organisez des campagnes d'influence, vous voyez un peu ce qui se trame derrière. Et peut-être que ça vous donnera un peu plus envie aussi de regarder de plus près le projet éditorial de l'influenceur et savoir comment prévenir ce genre de pratique pour pas que votre marque soit aussi liée à cela. Parce que franchement, ça ne fait pas avancer. Voilà, les robots, ils n'achètent pas de produits jusqu'à présent, donc ça ne va pas doper votre chiffre d'affaires si vous bossez avec un influenceur qui parle à des robots. Ok, bon, bah, merci Valentin pour ces chiffres. On a été un peu long sur cet épisode, mais ouais. Au moins, ça, on a posé les bases.
Ouais, c'est bon à faire.
À demain.
À demain.
traffic jams, tailgating, pileups. Ugh, the joys of driving. How could it get worse? The federal government wants to have a say in what you drive. That's right. The Biden administration's EPA is pushing mandates that would ban 2 out of every 3 vehicles on the road today. Don't let Washington become your backseat driver. Protect the freedom of driving your way. Visit EnergyCitizens.org. Paid for by the American Petroleum Institute.